Alors, cette conférence s'arrêtait là, elle était un petit peu plus étoffée parce qu'il y avait des anecdotes, mais étant donné que je veux insister sur la deuxième partie, je vais vous présenter ce qui a été présenté ce 17 juin 2006. En fait, le 17 juin 2006, il s'est passé un événement assez révolutionnaire sur cette planète qui malheureusement n'a pas été relayé au niveau des médias à cause de cette fameuse dissonance cognitive qui agit non seulement sur les scientifiques, mais aussi sur les journalistes qui ont peur de communiquer là-dessus. Les journalistes ont peur de dire que désormais des scientifiques ont prouvé que lorsque notre cerveau s'arrêtait de fonctionner, c'est-à-dire la définition actuelle de la mort clinique, eh bien nous sommes capables d'avoir une perception, une cognition possible. C'est une révolution de dire ça. Et comment on aurait pu dire ça dans une petite ville comme Martigues, hein? Donc, on a des difficultés à communiquer là-dessus. Sonia Barcala a réussi cet événement. Elle est venue me voir en 2005 alors que je faisais une conférence à Toulouse sur les espérances de mort imminente. Et elle m'a dit, j'aimerais faire une conférence à Martigues avec beaucoup de monde. Je voudrais faire une conférence sur les espérances de mort imminente. Et je pense que cette conférence, il y aura 2000 personnes au moins. Ouh là là, j'ai dit celle-là, soit elle est fatiguée. Soit elle est vraiment naïve, parce que je ne pense pas qu'on arrive à rassembler autant de monde pour un sujet aussi difficile et aussi tabou. Et elle m'a dit, mais vous ne serez pas seul, docteur, avec vous, il y aura aussi Pin Van Nomen, Raymond Moody, Sam Parnia, donc tous les grands noms de cette planète qui se sont intéressés aux expériences de mort imminente. Et cette jeune femme qui est venue me voir, qui avait que 29 ans, eh ben, je vous avoue que je l'ai classée dans le rang des farfelus, parce que vous savez, dans ce milieu, on trouve pas mal aussi de gens qui sont un petit peu allumés, hein. Et puis on s'aperçoit après que les allumés avaient raison. Eh bien oui, parce que ce jour-là, à Martigues, le 17 juin 2006, se sont réunis plus de 2500 personnes pour venir assister à une conférence sur les expériences de mort imminente. Il y avait bien sûr Raymond Moody, le docteur Pin Van Lommel, ce cardiologue des Pays-Bas, le docteur Sam Parnia, qui est réanimateur en Grande-Bretagne, qui lui fait des études sur des cibles cachées. Donc, dans son unité de réanimation, il met des faux plafonds et dans ces faux plafonds, il cache des objets. Il faut que les gens qui se décorporent reconnaissent les objets. Je pense qu'il est un peu naïf parce qu'il n'a pas eu affaire aux rationalistes qui avaient des croyances. Et il étend son expérience sur plusieurs lieux de réanimation, mais c'est sûr, et elle est déjà contestée, son expérience, parce que on dit, moi j'ai déjà communiqué sur cette expérience, et dans le public, il y avait déjà des esthéticiens qui disaient, mais qui nous dit que si l'objet a été reconnu par un comateux, il n'y a pas eu tricherie, il n'y a pas un expert, il n'y a pas un huissier au moment où l'objet a été revu, est-ce qu'il n'y aurait pas eu tricherie avec une petite perche et un miroir, enfin bon. Vous savez, les rationalistes qui ont des croyances, c'est vraiment terrible. Il leur faut la preuve de la preuve de la preuve, et je pense qu'avec eux, on n'avancera jamais. Je pense que si un rationaliste avec des croyances arrive dans l'au-delà et qu'il voit Dieu, il va lui demander ses papiers. Mais ça, c'est sûr, hein. Et puis s'il lui... Et puis s'il lui montre, il pensera qu'ils sont faux. Ça, c'est sûr. Donc, on n'en finit pas. Il y avait aussi le docteur Mario Beauregard, qui lui fait de grandes études. On l'a rencontré à Montréal. Il va venir en France très bientôt, au mois de septembre, puisque son livre Spiritual Brain va être publié aux éditions Mitre Daniel très bientôt, et il va communiquer là-dessus. Il a fait donc des études chez des carmélites en prière. Et il a vu que ces carmélites en prière, qui très docilement se sont laissés faire des électroencéphalogrammes pendant qu'elles priaient, elles ont été enfermées pour faire des IRM du cerveau, des scanners, des PET scans. On a essayé de voir quelle était la région qui s'allumait du cerveau. Bon, on a bien sûr pas trouvé la zone de la prière comme il existe la zone de la parole, mais au moins l'étude a le mérite d'exister. Mais on a quand même trouvé qu'il y avait une certaine activité électrique, des ondes θ en particulier, qui étaient retrouvées très fréquemment dans le cerveau de ces carmélites en méditation, en prière. C'est effectivement ce rythme θ qui est retrouvé dans le sommeil paradoxal, Donc il semblerait que c'est un rythme assez lent qui nous ouvrirait aux intuitions, aux prémonitions et aussi aux prières. Il y avait aussi le docteur Sylvie Dietiolas de Suisse qui, elle, s'occupe d'un centre Noésis qui, à Genève, donc je vous invite aussi à rejoindre son site Noésis si jamais vous faites des expériences de mort imminente, des expériences de décorporation. Si vous sortez de votre corps de façon spontanée ou provoquée, elle étudie ça de façon très 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 scientifique. Elle va vous faire remplir des questionnaires, elle va prendre contact avec vous, donc ça a le mérite d'exister. Et elle fait ça pour faire avancer les choses, c'est en train d'avancer. Donc il y avait aussi votre serviteur, le docteur Jean-Pierre Jourdan, qui est un médecin généraliste, qui a fait un gros travail de recueil sur les témoignages d'expériences de mort imminente, qui a publié un livre qui s'appelle « Deadline », un gros livre de 600 pages où il y a tout un tas de témoignages intéressants. Evelyne Sarah Mercier aussi, la présidente de Yans France. Patrice Van Hersel, qui a écrit ce magnifique livre, La Source Noire, oui, merci, qui a bien résumé les choses dans les années 80. Dominique Bromberger, que j'avais amené là, lui, vous savez, ce journaliste très rationaliste, très sérieux, eh bien, il est arrivé une expérience de mort imminente aussi, un accident ici à Paris, un accident de scooter. Il a écrit ce livre, Un aller-retour, et il décrit très très bien son expérience. Et je crois qu'il a largement résumé toutes les communications scientifiques qui ont pu être faites, avec des courbes, avec des statistiques. Je crois que c'est lui qui a eu le témoignage le plus fort lorsqu'il nous a dit « Lorsque vos proches partent de l'autre côté, ne pleurez pas, c'est sur vous que vous pleurez. » Et je crois qu'en disant ça, il a résumé toute notre journée. Ça a été magnifique ce témoignage. Bien sûr, mon ami Jean Morzel qui a témoigné, Nicole Dron, et il s'est dit lors de cette journée, un consensus extraordinaire, un consensus qui repose sur trois points essentiels, trois points qui ont du mal à passer, surtout le premier, au niveau des médias. Et vraiment, c'est presque du domaine du confidentiel, alors que je veux dire, ça devrait être largement diffusé, parce que peut-être que nos comportements sur cette planète changeraient si on savait qu'un état de conscience modifié se poursuit lorsque notre cerveau s'arrête de fonctionner. Imaginez-vous ça, imaginez-vous cette nouvelle qui est diffusée largement. Toutes nos valeurs rationnelles, matérielles changent, bien sûr. Tous nos paradigmes sont bouleversés, mais aussi, peut-être, tous nos comportements planétaires. Donc peut-être que ça arrange bien des gens de dire que la mort, c'est le néant, mais en tout cas, pour axer bien les gens sur le matériel, mais en tout cas, ce consensus de Martigues a un mal fou, je vous garantis, à passer. Et véritablement, c'est dommage, parce que, encore une fois, ça changerait tout. Deuxième consensus, aucune explication scientifique au phénomène des espérances de mort imminente. Et troisième consensus, un état de conscience modifié est possible en dehors des espérances de mort imminente. Mais ça, nous les scientifiques, on arrive véritablement à la rame derrière les chamans et autres sages qui savaient que depuis longtemps, on était capable d'avoir des états de conscience modifiés en dehors de ces expériences de mort imminente. Donc, on va reprendre tous ces points parce qu'ils sont véritablement très importants. Un état de conscience modifié se poursuit à l'arrêt du fonctionnement cérébral, et tout ça, ça a été colligé sur des revues à comité de lecture comme The Lancet ou Nature. C'est une nouvelle qui est scientifique, je veux dire, ce n'est pas une des publications sur des revues ésotériques. Ce sont des preuves scientifiques avec des électroencéphalogrammes plats. Il y a plusieurs exemples. Le docteur Moody et le docteur Beauregard nous ont recité cet exemple de Pamela Reynolds, mais il y en a d'autres. Pamela Reynolds, cette jeune femme, c'est vrai que c'est le plus démonstratif, parce que même là, les hyper-rationalistes ne peuvent pas nous dire qu'il y a eu tricherie, parce qu'il y avait tout un tas de scientifiques au moment où ça s'est produit. Pamela Reynolds est une jeune femme qui souffre d'un anévrisme du cerveau. Pour opérer cet anévrisme du cerveau, il faut supprimer la vascularisation artérielle du cerveau et aspirer la vascularisation veineuse. Vous savez que dans ces conditions, un cerveau qui ne reçoit plus de sang, qui n'a plus de sang dans son tissu, eh bien, il va mourir au bout de 3 minutes. Donc pour éviter ça, on refroidit le cerveau de Pamela Reynolds à 15,5 degrés et on mesure toute l'activité électrique, le potentiel évoqué auditif et l'électroencéphalogramme. on peut s'en douter, tout est plat. Aucune activité, aucune possibilité d'échange biochimique entre les neurones à cette température sans aucune goutte de sang dans le cerveau. L'intervention dure 1h30. À son réveil, Pamela Reynolds décrit toute son intervention, les instruments utilisés par le chirurgien, la conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui était présent et le chirurgien. Elle n'a pas pu entendre avec ses oreilles, elle n'a pas pu voir avec ses yeux, elle n'a pas pu intégrer toutes ses perceptions avec son cerveau puisqu'il ne marchait pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque nous sommes en état de mort cérébrale, provisoire, eh bien, on est capable d'avoir une perception et une poursuite de vie dans une autre dimension. Je vous rappelle que la définition de la mort définitive n'est que la limite actuelle de nos possibilités de réanimation, puisque nous décidons, de façon tout à fait arbitraire, vous me direz, temporaire tout au moins, que lorsque l'électroencéphalogramme est plat, à 4 heures d'intervalle pendant au moins 30 minutes, en dehors des conditions de narcose et d'hypothermie, eh bien, nous sommes déclarés cérébralement morts de façon définitive. C'est la condition pour débrancher un comateux du respirateur, ou c'est aussi la condition pour lui prélever ses organes, c'est-à-dire enlever des pièces détachées pour aller sur un autre véhicule terrestre. On peut voir les choses comme ça. Le docteur Sylvie Etiolas nous a parlé aussi des out-body experiences avec les électroencéphalogrammes plats, puisqu'elle fait aussi une étude dessus. Le deuxième consensus de Martigues est aussi très intéressant puisqu'il nous permet de dire qu'aucune explication existe pour donner de façon tout à fait rationnelle une idée de ce que peut être une expérience de mort imminente. Je n'insiste pas sur les stimulations du gyrus angulaire puisque j'ai largement parlé de ça puisque c'est actuellement, pour le moment, l'explication hallucinatoire des détracteurs des expériences de mort imminente, alors que, vous l'avez compris, ça n'a rien à voir. La vision otoscopique externe reproductible par la stimulation du gyrus angulaire n'a absolument rien à voir avec la décorporation out of the experience d'un expérienceur capable d'aller visiter ce qui se passe à distance de son propre corps, et non seulement capable de voir son corps mais aussi ce qui se passe à distance. Les premières hypothèses ont été des hypothèses psychiatriques. Vous m'étonnez après qu'on ait du mal à recueillir les témoignages. On a dit que ce sont tous des mythomanes. Vous imaginez autant de mythomanes qui, sans se connaître sur cette planète, racontent tous la même chose, complètement absurde. On a dit que ce sont des schizophrènes. La schizophrénie, ça n'a absolument rien à voir avec ça, puisque la schizophrénie, c'est une maladie, les médecins qui sont ici le savent, qui est axée au contraire sur la paranoïa, sur l'agressivité, jamais sur l'amour et le partage, avec donc des personnes qui vont avoir des discours complètement délirants, mais originaux. Ça n'aura rien à voir avec la séquence événementielle de l'expérienceur. On a dit aussi, eh bien si c'est pas ça, alors c'est un état de semi-conscience. C'est-à-dire que lorsque vous perdez connaissance, vous avez dans un premier temps un voile noir devant vos yeux, vous avez une suppression des informations visuelles. Dans un deuxième temps, après avoir eu ce voile noir, vous allez tomber, une suppression de la motricité, puis une suppression de tout ce qui est tactile. Vous n'allez plus sentir le plancher qui est au-dessus de vous, qui vous supporte. Et en dernier, vont disparaître les informations auditives. Tout ça, ça peut être mesuré par des potentiels évoqués auditifs. On a mesuré une activité résiduelle au niveau de ces potentiels lorsque la personne était en coma assez profond. Et là, les détracteurs ont dit « Ah ben ça y est, on a compris. Le cerveau reconstitue un historique à partir des informations auditives et ces informations auditives réelles reconstituent un historique réel lui aussi. Et on a l'impression d'avoir vécu alors qu'on était dans le coma. Mais ça ne tient pas non plus puisqu'on a des informations qui n'ont pas été données par la vision, comme mon ami Jean Morzel, qui a vu cette plaque sous la table. On n'a pas donné la description de la plaque, ou un parc à vélo, ou à distance, ou à des kilomètres de leur corps, où on ne peut pas entendre, bien sûr, les informations de ce qui peut se passer à des kilomètres. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Je ne reviendrai pas sur la théorie freudienne d'une certitude inconsciente d'immortalité, ça ne vaut même pas le coup d'en parler, tellement c'est absurde. Les hypothèses métaboliques sont des explications de mort, ce ne sont pas des explications qui vont donner la clé des décorporations. c'est les façons de mourir. L'hypoxie, l'hypercapnie ou l'hypocapnie, le manque d'oxygène, le manque de CO2 ou l'excès de CO2 peuvent entraîner la mort, bien sûr. Mais ce n'est pas avec ça qu'on explique l'expérience de mort imminente. Encore, vous trouverez des gens qui vous disent « Mais oui, mais ça, c'est le manque d'oxygène au cerveau, c'est des hallucinations. » Mais non, pas du tout. Oui, l'hypoxie peut faire mourir. Les hypothèses neurologiques sont à nuancer. Il y a à la fois visions otoscopiques externes et aussi des NDE. L'épilepsie, en particulier temporale, peut reproduire des expériences similaires aux expériences de mort imminente, mais de façon hallucinatoire. Par exemple, Lewis Carroll souffrait d'épilepsie temporale droite, et on retrouve dans son magnifique récit d'Alice au Pays des Merveilles ses visions de tunnels et de lapins qui s'enfoncent dans les tunnels. Les stimulations de Penfield, je n'y reviens pas puisqu'on a largement parlé, et les neuromédiateurs, kétaminergiques ou endorphiniques, donnent aussi des visions otoscopiques externes, c'est-à-dire des hallucinations. Nous utilisons en tant qu'anesthésiste la kétamine comme drogue, mais nous l'utilisons avec des électrocardioscopes, parce que c'est une drogue qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et des bas débits cardiaques, et aussi des hypoxies et donc des NDE aussi. Et il se trouve que les gens qui font des rêves parties utilisent une drogue qui s'appelle Kit Kat ou Mr. K, enfin, il y a à chaque fois le K dedans, c'est de la kétamine. Et c'est vrai qu'ils font des sorties de corps, et c'est vrai aussi qu'ils font des NDE, ils font des morts aussi, des morts cérébrales. Il y a eu beaucoup d'accidents avec cette drogue. Les morphiniques aussi peuvent donner des visions otoscopiques externes, hallucinatoires, mais aussi des sorties de corps de NDE, parce que, à des doses mortelles, la morphine peut tuer, tout simplement. La morphine paralyse les centres bulbaires de la respiration et donne des hypoxies cérébrales par manque d'oxygénation. Donc, vous voyez, la nuance est importante entre la vision otoscopique externe hallucinatoire et la décorporation réelle des expérienceurs, mais en tout cas, aucune de ces explications ne donne la véritable explication, en particulier, de la décorporation qui, elle, est bien réelle. Un état de conscience modifié est possible en dehors des espérances de mort imminente. C'est le docteur Pin Van Loman qui nous a présenté son étude sur tous ces arrêts cardiaques. Il a vu qu'il y avait à peu près 18% d'expérienceurs parmi tous les arrêts cardiaques, en tout cas ceux qui voulaient bien communiquer leur expérience. Et il a dit, après tout, le cerveau est peut-être un émetteur-récepteur. Hein. Et lorsque le téléviseur est cassé, notre cerveau, eh bien, le programme continue. On pourrait même aller plus loin en disant qu'il y a des facultés de réception par la médiumnité, par exemple, et aussi des capacités d'émission dans la prière. Pourquoi pas ? Notre cerveau faisant, dans ce cas, office d'émetteur-récepteur avec une autre dimension qu'on pourrait appeler l'au-delà, si on est plutôt dans le camp des ésotériques. En tout cas, en médecine, il n'y a pas de nom pour l'instant. Le docteur Sylvie Létiolas nous a parlé de ses expériences de sortie de corps en dehors des expériences de mort imminente, et j'ai moi-même présenté aussi, a fait parler rapidement de ces personnes qui pouvaient être avec des sorties de corps sans être en expérience de mort imminente, puisque une personne anesthésiée peut être surveillée, et à partir de ce moment-là où elle est surveillée, il n'y a aucun problème, on le saurait hein, avec les appareils, et que la personne vous décrit une sortie de corps et qu'elle vous décrit ce qui s'est passé dans un bloc opératoire à côté, eh bien, on ne peut qu'admettre que cette expérience de sortie de corps peut être réelle en dehors des expériences de mort imminente.